Et pour que je vous raconte la chose suivante, j'étais dans mon bureau, c'était en juin 41, content de mon existence, et c'est ma secrétaire qui se rapproche pour me dire, il y a un soldat dans la chambre de réception, mais c'est un soldat sévère, il est habillé très officiellement, il porte même une casque sur la tête, n'est-ce pas? Il a ici une banderole avec une petite pochette, il veut vous parler. Vous faites-le rentrer, n'est-ce pas? Lui, j'ai eu un très grand bureau là-bas, il reste à la porte, il fait clac, le talon, ça me choque parce que je n'aime pas du tout, n'est-ce pas? Il me demande, est-ce que vous êtes Monsieur Hinzmann? Je dis, je le crois, n'est-ce pas, mademoiselle Schroeder? Elle dit, oui, vous êtes. D'accord, je dis, je le suis. Il se rapproche avec vraiment un soldat, mais vous avez une situation comique, si vous voulez, n'est-ce pas? Il reste devant mon bureau pour ouvrir son petit truc de botanique. Il y a un seul papier dedans, une lettre. Il me pose. Et maintenant signé, je signe, je comprends encore rien. Je dis, est-ce que vous voulez un cigare? Innocent comme je suis. Et le soldat, qui est naturellement au courant, il dit, mais ouvrez quand même la lettre, n'est-ce pas? Et je le fais, et avec étonnement, je constate, je suis devenu soldat, pratiquement tout de suite, et le type, avec une moto, et à ma disposition pour régler mes affaires et pour me présenter 2 heures après à un gare dans les environs de Berlin, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu, j'ai dit, mais tu es même partisan de la Staffelkampf, on ne va pas attaquer Angleterre maintenant, n'est-ce pas? Et rien à faire, n'est-ce pas? Je suis devenu soldat, et je suis rentré dans le train. On a roulé 3 jours pour arriver enfin à Paris. J'étais tout étonné parce que nous étions destinés pour l'Angleterre, n'est-ce pas? Et à Paris, on a l'impression en plein pays. Enfin, j'ai compris plus tard, parce que nous sommes arrivés le 22 juin 41 ici, et c'était, je ne peux jamais oublier cette date parce que c'est mon jour de mariage, et mais en même temps, Hitler a attaqué la Russie. Mais c'est un petit peu pour moi, un petit peu enfantin, on a mobilisé la Staffelkampf pour faire semblant, on attaque Angleterre, n'est-ce pas? Mais bref, ça, on m'a donné ça comme explication. Bon. Et nous étions, on nous a placés dans un petit hôtel rue de la Convention, c'était charmant, le 15e arrondissement. Chaque soldat a une petite chambre, moi aussi, comme de 8 ans soldat, parce que les autres ont déjà un petit peu d'expérience, sauf moi. Mais on était là-bas pour. On savait pratiquement rien faire, n'est-ce pas? Et moi, naturellement, j'ai cherché de sortir. Et j'ai appris un petit peu, parce que j'ai uniquement un uniforme qui a été un petit peu grand. Et j'ai appris ce qu'on fait comme soldat dans la rue pour visiter au Majestic, parce que. La propagande-abteilung, c'est-à-dire Monsieur Bofinger, la propagande-abteilung s'est trouvée au Majestic. Et un jour, c'était déjà après quelques semaines, il dit, vous vous rendez compte, il y a ici un ordre militaire formidable. Ça vient de Höhere Nachrichtenführer, ça veut dire. Les PTT pour toutes les informations militaires, n'est-ce pas? C'était un général qui a donné l'ordre de démanteler la tour Eiffel, c'est-à-dire l'antenne et le câble. L'antenne se trouve, l'émetteur se trouve dans un édifice de la tour Eiffel, mais 300 mètres hauteur de câble, n'est-ce pas? Vous savez, vous avez eu à cette époque le plus fort transmetteur de télévision au monde, n'est-ce pas? C'était bizarre, n'est-ce pas? Presque pas de studio, mais un meilleur émetteur. Mais on a été vraiment suffoqués. Il dit, mais c'est un vandalisme. Il faut le démanteler et la matière première, il faut la mettre à la disposition de la maison Telefunken. Maintenant, il faut que je explique encore la chose. La compagnie des compteurs et la maison Telefunken ont conclu un contrat pour l'échange des brevets, etc. en 1936. Et ça, c'était prévu une durée de 10 ans. C'était interrompu par la guerre. Et c'est pour ça qu'il a donné l'ordre, n'est-ce pas, que grâce à des main-d'œuvre de Telefunken ou compagnie de compteurs, la tour Eiffel sera démontée. Et vous savez, c'était, pour nous, c'était un choc énorme, mais le destin est toujours avec les bons. On s'adresse Bofinger téléphone à M. Barthélémy, qu'il connaissait assez bien. Et Barthélémy dit, mais vous savez, ça tombe du ciel, parce que nous avons déjà cet ordre ici. Et demain, j'attends le professeur Schröter de Berlin, qui viendra avec son adjoint, le docteur Diels, parce que nous avons envisagé de faire revivre notre contrat que nous avons conclu en 1936. Les pionniers français, c'était, première ligne, c'était René Barthélémy, et après Henri de France, n'est-ce pas, et Marc Chauvière, ce sont les trois messieurs de renom. Et chez nous, nous avons eu peut-être, le plus important, c'était le professeur Schröter, n'est-ce pas, qui a peut-être un 400 ingénieurs, n'est-ce pas, qui ont travaillé pour la télévision, pour le développement, n'est-ce pas, et avec tout cela. Bon, et le lendemain, Schröter est vraiment venu, on s'adressait tout de suite chez lui, il a été scandalisé comme tout le monde, n'est-ce pas, comme Bofinger et moi, et les quatre, n'est-ce pas, sont réunis pour discuter la situation. Et tout à coup, vous savez, on dit, mon Dieu, peut-être on peut faire revivre l'idée de Berlin, n'est-ce pas? On peut faire pratiquement la même chose, n'est-ce pas? On peut faire une télé pour les blessés. Et on a s'adressé au Höhere Nachrichtenführer, on lui a dit, n'est-ce pas, quand on peut faire ça pour les blessés, en même temps, on peut troubler les messages entre les avions, n'est-ce pas, avec le radar, n'est-ce pas, pour empêcher, n'est-ce pas, ça, c'est vrai d'ailleurs. Et il n'était pas très chaud, mais bref, il paraît, on pourra réussir, on a cherché des exemples, des images, des rapports de Berlin, n'est-ce pas, pour survaincre cet officier, oui. Et il dit, mais sous condition, vous construisez quelque chose, n'est-ce pas, qui donne à peu près la même chose comme à Berlin, on peut discuter, n'est-ce pas, c'est-à-dire de créer une salle pour les blessés, etc., et faire venir des appareils d'Allemagne pour les placer ici dans les hôpitaux. Et on dit, oui, oui, on le fera. Et moi, j'ai eu cette idée, j'ai dit, quelle occasion unique, tu peux te débarrasser de PTT, n'est-ce pas? Tu peux, à la place de le PTT, tu vas demander l'industrie allemande et l'industrie française. Bon. Et maintenant, j'étais dans la position de trouver un studio, n'est-ce pas? Et d'abord, on m'a proposé Avenue Montaigne, ça m'a arrangé beaucoup parce que j'ai eu un appartement Avenue Montaigne. Il y a le théâtre de Champs-Élysées. C'était très pratique, si vous voulez, première vue, parce qu'il y a le théâtre et sous ce théâtre, il y a encore un autre théâtre plus petit. Et après, il y a encore une salle pour le ballet, etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire pour faire des exercices, n'est-ce pas, tout cela. Mais je me suis dit, mon Dieu, quand même, c'est limité. Il n'y a pas de développement, n'est-ce pas? Mais on ne voulait pas, on voulait me forcer d'accepter quand même, n'est-ce pas? Mais heureusement, le courant n'était pas assez fort. Et sans faire quelque chose, c'est tombé à l'eau. Et les Français m'ont proposé, à cette époque, le palais Tokyo. Vous savez, c'est à la Seine, je crois que ça s'appelle maintenant qui est New York. Le palais Tokyo, c'était partagé en deux parties. Une partie appartient à l'État et l'autre la ville. C'est prévu pour les expositions. Vous savez, c'est beau comme immeuble, mais béton et marbre, une hauteur de 12 mètres, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on demande au fond, n'est-ce pas, pour la télé, parce qu'il faut, à cause de la chaleur, à cette époque surtout, une certaine hauteur. Mais, vous savez, c'était un bâtiment froid. Froid, n'est-ce pas? Et on ne sentait pas à l'aise, n'est-ce pas? Et c'était encore occupé par des galeristes, etc. Et c'était encore prévu autre chose. Bref, n'est-ce pas? Ça me déplaisait. Béton et marbre, vous savez, ça c'est... Bon, et je me suis promené dans les rues, et tout à coup, 180 rue de l'Université, je vois un immeuble bizarre, rouge foncé, sale, et je entoure, il y a une très grande entrée, il y a à côté de l'immeuble et arrière, il y a une garage, mais une garage immense, mais vide. Rien ne tente, c'est que le sable. Et j'essaye de rentrer, je trouve le concierge et il me montre la salle. Et mon Dieu, je dis, c'est ça, c'est le paradis. Et je commençais déjà à construire, je prends des photos. Ça. Et je vois déjà dans ma tête, n'est-ce pas, les possibilités. Il y a une scène, n'est-ce pas, je dis, bon, après la scène, on peut faire des salles de maquillage, n'est-ce pas, etc. Je rêve, n'est-ce pas. Et je sors et je rentre encore dans le garage et dis, mon Dieu, n'est-ce pas, et ça fera partie. Et j'irai encore, je fais le rond. Et je vois rue Cognac, j'ai 13-15, n'est-ce pas, qui est ça? Et je me suis dit, ça c'est le rêve de tout, n'est-ce pas, de réunir rue Cognac, le garage et Magic City. Je trouve la possibilité de rentrer, là-bas je trouve le concierge, et il montre tout, et vous savez... C'était plein de poussière. Chaque pas, ça fait encore des petits nuages, n'est-ce pas? Autrement, à l'époque, on m'a dit, n'est-ce pas, c'était une salle de danse, n'est-ce pas, ou même des réunions politiques et des choses comme ça. Et je vois la situation là-bas et je commence à rêver. Je dis, mon Dieu, c'est ça ce que tu cherches? Je vois déjà, il y a la scène, on peut mettre, n'est-ce pas, des escaliers qui se trouvaient déjà un petit peu. On peut faire avec des escaliers dans les variétés, on peut faire beaucoup de choses. Et après la scène, on va installer les studios de maquillage, les garde-robes, etc. Et je commence à rêver et ça m'appelait plus en plus. Et j'ai pris des photos. Et je fais encore le rond. Et je rentre ici, rue Cognacqué. Et je réalise numéro 1315. C'était la pension famille Alma qui était. Ça touche avec le dos le grand garage là-bas. Et je dis, et quand on peut ajouter encore ces deux immeubles, ça sera une situation unique au monde. Et je fais le calcul et j'arrive, ça va couvrir 5000 mètres carrés. Et quand on peut transformer tous les 5000 mètres carrés avec le plus fort émetteur au monde, avec la tour Eiffel, ben ça, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas trouver mieux. Et vous avez plein de joie. Je me mets en relation avec Bouffinger et avec M. Braillard. Et Bayard est enthousiasmé comme moi, quelle chance. Bouffinger m'a donné 100% confiance. Je pouvais pratiquement faire tout ce que je voulais, n'est-ce pas? Parce qu'il était sûr que je ne ferai pas, je ferai pas de bêtises, n'est-ce pas? Bon. Et on demande aux Français d'acheter Magic City, ça ils l'ont fait, ils l'ont fait en même temps, acheter le garage. Et après, j'ai sorti, je dis, mais vous savez, pour compléter tout, parce que je n'ai pas osé de mettre tous sur un coup, n'est-ce pas? Parce que c'était des particuliers qui habitaient ici. Les appareils de Berlin sont arrivés, on a créé là-bas un petit groupe technicien, c'était ça s'appelait Funk Einsatztruppe 60, FET 60, c'était un truc militaire. Et il y a un ingénieur à la tête, les autres c'était les techniciens pour la caméra, pour l'éclairage, n'est-ce pas, pour le cinéma, etc. Et ils sont arrivés, c'était tout, ça se passait tout en rapidité, et on a installé cette troupe dans l'avenue Charles Floquet, c'était l'ancienne ambassade de la Tchécoslovaquie. On a logé, et au rez-de-chaussée, il y a eu deux grandes salles pour la réception, là-bas. Et je me suis dit, mon Dieu, ça c'est en attendant la finition à Magic City. On va installer tous les appareils que nous avons ici, avenue Charles Floquet, pour faire des essais. C'est pas pour apprendre caméraman, l'éclairage, speaker, on pouvait faire, n'est-ce pas? En doute, on a même transmis de là-bas les choses. Et la situation a été très, très pratique parce que quand on ouvre une fenêtre, on voyait la tour Eiffel, n'est-ce pas? Et je faisais la chose suivante. Pour commencer les émissions, on a mis la caméra qui a regardé par la fenêtre, n'est-ce pas? On a vu la grande tour et on a ajouté une banderole, n'est-ce pas, télévision française ou Fernsehsender Paris, n'est-ce pas. Et pour indicatif sonore, c'était un petit peu osé, peut-être à l'époque, parce que j'ai choisi la chanson « Sur le pont d'Avignon », le premier 14. Et ça se répétait, n'est-ce pas? Et je peux vous raconter peut-être tout de suite, parce qu'autrement on va l'oublier. Après un an ou un an et demi, on a eu du mal à embaucher vraiment des vedettes françaises avec renom, parce qu'on se méfiait. Et j'ai pensé, si tu as la chance d'attraper la Miss Tinguette, parce que je faisais la connaissance, dans ce cas, c'est un clé pour tous les autres, n'est-ce pas? C'était correct. Mais malheureusement, elle n'a pas marché, n'est-ce pas? Et pour la convaincre, pour un mois, l'indicatif sonore a été la tour Eiffel est toujours là. C'était une création de Miss Tinguette et pour la flatter, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas marché. Mais après, c'était encore sur le pont Avignon. Bon, nous avons pris un architecte, c'était un architecte, un russe blanc, Tupchinski, je crois. Oui, oui, quelque chose comme ça, ce qui faisait les plans. Et vous savez, les Français ont, ont eu beaucoup d'appétit après, n'est-ce pas? J'ai déjà rêvé, mais vous savez, ce n'est pas compliqué pour révéler encore d'autres idées chez les Français, n'est-ce pas? Dans notre. D'abord, c'était la chose la plus importante de créer une salle, n'est-ce pas, pour rester fidèle à nos promesses, n'est-ce pas, à notre existence, n'est-ce pas. Et c'était la salle là-bas, c'était à peu près pour 250 à 300 blessés, pas plus, n'est-ce pas. Mais c'était assez grand et gentil. Et il y a le tapis dans un certain caoutchouc, les caméras pouvaient rouler silencieusement, n'est-ce pas? On a construit un pont pour l'éclairage, parce qu'il fallait à l'époque 3000 lux pour l'éclairage. Ça fait bien chaleur, vous savez. Et dans la régie qui a été en haut, n'est-ce pas? Les Français ont demandé de préparer pour 20 sorties, n'est-ce pas? C'était pratiquement pour... Nous avons eu, à la fin, 4 caméras, mais ils ont toujours déjà, dans leur idée, une vingtaine, n'est-ce pas? C'était le cœur technique. Nous avons un rez-de-chaussée, nous avons l'entrée, nous avons la centrale pour le standard, et nous avons eu là-bas plusieurs possibilités pour... visionner des films, n'est-ce pas, pour, parce qu'en bas se trouvait également notre groupe de reportage. Nous avons eu 5 groupes qui ont pris des actualités. Ça me rappelait un peu de mon passé à Berlin, n'est-ce pas. Et les caméramans sont aller à Paris pour prendre, n'est-ce pas, les événements. Nous sommes revenus le soir. Nous avons créé une installation pour le développement en vitesse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était pas plus tard que le lendemain qu'on pouvait passer à l'antenne, n'est-ce pas, les actualités de Paris. En plus, on a diffusé soi-disant le Wochenschau, c'est-à-dire c'était des actualités d'Allemagne. Ça paraît 2 fois par semaine. On a changé tous les 3 jours les actualités. On a toujours ajouté les nôtres. On a invité, n'est-ce pas, les blessés. C'était toujours rempli. On a distribuer le programme dans les Soldatenheime, c'est-à-dire il y a eu à Paris des restaurants, des cafés, n'est-ce pas, pour les soldats allemands, n'est-ce pas, là-bas c'était affiché notre programme, ils sont venus, il y a même un petit bouquin qui paraissait, n'est-ce pas, pour les occupants, parce que, n'est-ce pas, il ne passait rien ici, n'est-ce pas, les soldats, n'est-ce pas, ils pour les distraire, autrement ils font des bêtises. Bon, et revenons, n'est-ce pas, sur la construction. Premier étage, c'était prévu de faire des petits studios pour les annonces, pour mêler dedans jusqu'au troisième étage. Et quatrième, cinquième, c'était destiné pour la radiodiffusion nationale. Et sixième et septième, c'était la direction. C'est malin, le PTT, etc. Mais on faisait un certain mélange, on ne regardait pas. Ici, c'est l'allemand, ça, c'est français. C'était comme nous avons vécu également ensemble au restaurant, dans la même manière où on a travaillé toute la journée. Et troisième étage, c'était l'auteur du toit de garage. On a fait une passerelle pour traverser de Magic City à la rue Cognacqué, n'est-ce pas? Et une chose drôle, vous savez, à l'époque, on a essayé, parce que comme situation, c'est unique pour la télé, tellement près de la Tour Eiffel, et vous voyez comme le... Le choix a été vraiment bien parce que ça existe toujours, n'est-ce pas? Je parle des événements il y a 50 ans.
C'est la réalisation de nos rêves.
On a commencé avec le programme le 7 mai en 43. Et la véritable inauguration, on a prévu pour le 30 septembre, n'est-ce pas, où on fait venir tous les officiels de la ville et de l'armée, etc. Mais pendant les mois avant, on a déjà eu une émission de 2 heures à 3 heures de télé par jour. La Tour Eiffel a travaillé pratiquement... jusqu'à 14 heures par jour, c'était divisé son et image, n'est-ce pas? Nous avons eu un programme le matin, l'après-midi et le soir, n'est-ce pas? Et le soir tard, c'était toujours la radio. C'est d'ailleurs la première fois que la radio est transmise par un émetteur de télévision, n'est-ce pas? On a pris le programme de la de Deutschlandsender. C'était pratique pour nous parce que ça me permettait de dire adieu à la fin de nos émissions comme on le voulait. À la fin, chez nous, on a fait chanter le fameux Lily Marlène et j'ai présenté le véritable disque, n'est-ce pas, en allemand d'abord, mais pour les Français, c'était chanté par Sissi Soledur avec sa voix. Oui, après la télé c'était terminé et on n'était pas obligé de dire à Hitler ni faire chanter Horst Wessellied. On était libre de ça. J'ai eu en total peut-être 150 personnes. Naturellement, il y a eu assez de collaborateurs libres, ne soit de passage. Nous avons préparé les programmes jusqu'à 20 août. On a constaté que c'est trop tard parce que les Américains ont été déjà devant la porte. J'ai eu 8 Allemands et le reste c'était le Français et 15 différentes nations. 15 différentes nations, de Belges, de Suisses, Ah, vous savez, même de l'Asie, Éthiopie, Abyssinie, n'est-ce pas, et tout ça. Mais 8 Allemands, c'était tout. Et le service émetteur dans l'édifice, c'était toujours servi par les Français, par les anciens. Parce que, n'est-ce pas, au moment où le Funkeinsatz stop, avec M. Kretzavall, c'était l'ingénieur en chef qui fait les premiers travaux pour remettre en état l'émetteur de télévision en état. Ce n'était pas grand-chose, vous savez, c'était toujours la même chose. Les techniciens ont construit quelque chose, c'est leur bébé, on ne détruit pas. Brutalement, n'est-ce pas? Et nous avons fait, au moment de notre retraite, la même chose, n'est-ce pas? En réalité, n'est-ce pas, on n'a rien détruit. Nous avons joué des pièces de théâtre, La Biche, attendez, je crois, parce que j'ai pensé, vous voulez me poser la question, et c'est pour ça que de Prosper Mérimée, Le ciel et l'enfer, Les amours du diable, c'est Jacques Chenet, et Musset, Vigne, La Biche, Géraldine, Dark Lady, de Shakespeare, nous avons même joué des pièces interdites, mais on s'en fichait, vous savez, même des juifs, n'est-ce pas, ont passé des chansons, des éditeurs interdits en Allemagne, mais vous savez, c'était loin, Berlin. Oui, nous avons, vous savez, on a essayé vraiment de faire quelque chose pour la télé. C'était encore plus une occasion de faire des essais. Et on faisait ça toujours dans une certaine camaraderie. Nous avons eu ici, dans la rue Cognacq, au 8e étage, un restaurant. Naturellement, c'était mélangé allemand avec les Français. Vous savez, on m'a rapproché ça plus tard. Mais vous savez, quand les gens travaillent toute la journée ensemble, pourquoi pas manger ensemble, n'est-ce pas? C'est idiot, mais l'esprit a été assez souvent comme ça. Mais en plus, on faisait tout pour ne pas faire trop de bruit. Parce qu'on il y a eu, on m'a rapproché après, et c'était vrai d'ailleurs, je faisais travailler même des... J'ai prisonnier évadé et j'ai donné des certificats de complaisance pour empêcher que les gens soient transportés en Allemagne pour travailler. Oh, des tas de choses, vous savez. Et également, n'est-ce pas, il n'y a pas eu une signe, c'était pas du tout affiché. Fernsehsender Paris, c'était un meuble privé. Et on m'a dit, n'est-ce pas, même pas un soldat à se promener. Mais vous savez, à quoi ça sert? Le personnel a été payé par la Fernsehsender, on s'appelait Fernsehsender Paris. Nous avons eu des budgets. J'ai cherché des budgets soit à Berlin, par les moyens de propagande, ou par les PTT, où j'ai été également subventionné ici par la commandanture et par le gouvernement militaire, parce qu'il y a une différence entre la ville et pour la totalité, c'est-à-dire tous les cachets, nous avons eu une véritable administration, j'ai même un chef pour le personnel, et pour embaucher les artistes, c'était notre responsable, c'était Suzanne Bridou, la fameuse speakerine, n'est-ce pas? Je crois que c'est la speakerine, la première place, n'est-ce pas? Parce qu'elle a déjà commencé, c'était une collaboratrice chez les Compteurs, et chez les Compteurs, chez M. René Barthélémy, il y a eu le studio, studio de télévision. Et de temps en temps, Barthélemy faisait des démonstrations devant les invités. Et c'était Suzanne Bridoux qui a cherché des artistes, qui a fait des annonces. Et elle a été ravie avec l'accord de la compagnie de Compteur. Elle a travaillé chez nous pour continuer son travail. Et nous avons également pris des maquilleuses, n'est-ce pas, qui ont travaillé déjà rue de Grenelle. C'était Madame Carton, c'était Madame Nussberger. Oui, c'était les deux qui s'occupaient du maquillage. Au début, j'ai eu beaucoup de possibilités d'embaucher des artistes allemands. Parce qu'il y a eu des troupes qui ont traversé toute la France pour faire des démonstrations devant les soldats, n'est-ce pas? Et j'étais au courant sur les groupes et sur les artistes, n'est-ce pas, qui sont envoyés par le ministère de propagande, n'est-ce pas? Et j'ai profité de me mettre en relation. On a fixé les dates, n'est-ce pas? On savait d'avance. Ils sont là, et là, et là. Assez souvent, on a envoyé même des scripts, n'est-ce pas, qui peuvent apprendre déjà avant de venir ici, pour gagner du temps. C'est-à-dire, assez souvent, on a fait les derniers essais quelques heures avant l'émission. C'était tout, n'est-ce pas? Et après, tout a été en direct, n'est-ce pas? Mais, vous savez, avec le temps, ça devenait plus en plus difficile de trouver des acteurs en langue allemande. Et je me suis engagé, j'ai accepté par force de prendre les Français. Naturellement, les soldats n'étaient pas toujours contents, n'est-ce pas? Mais on a dit, n'est-ce pas, ça il faut, n'est-ce pas? Il faut pour la collaboration avec la France, n'est-ce pas? Mais au fond, c'était bien nécessaire parce que je n'ai pas eu assez d'artistes en allemand. Et c'est peut-être intéressant si je vous dis, n'est-ce pas, nous avons eu une chanteuse qui est passée assez souvent, c'était Michel Dorlan. Et un jour, elle se présentait avec une chanson « À le petit vin blanc ». Et je donnais à M. Cadel et Kuiper, il dit « Est-ce que ça vaut quelque chose ?» Il dit « Oh, ça deviendra certainement un hit. » Bon, je le croyais également. Et elle a chanté peut-être 40 fois, 50 fois « À le petit vin blanc ». C'était vraiment une création de la télévision allemande, cette chanson qui rentrait dans le public, n'est-ce pas, même à la Libération, je crois, on l'a chanté dans toutes les rues. Et nous avons naturellement tous les autres artistes, des grandes vedettes même. Nous avons eu des gens du cirque, Pipo et Rome par exemple. Et je vous rappelle des Fratellini, etc., n'est-ce pas, des Cradock. Et nous avons eu présentateur, c'était Howard Vernon, c'est un artiste, un danseur de claquettes, n'est-ce pas, c'est un Suisse qui parlait naturellement couramment le français et l'allemand. Nous avons eu un après-midi, une visite dans un café ou dans une variété, etc. Ça, on a fait encore en plus, n'est-ce pas? C'était encore un supplément. Des récepteurs, vous savez, il y a en total à peu près entre 300 et 350. Et je peux me rappeler encore dans ce moment parce que c'était sur la charge de la Reichspost de soigner les appareils dans les hôpitaux, mais j'ai gardé pour moi une fiche pour chaque appareil, n'est-ce pas? Il fallait mettre les dates de la contrôle, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'était entre 300 et 350. Et en plus, il y a eu à Paris Il paraît, ça on m'a dit, c'était d'ailleurs je crois Chauvière ou Malin, qu'on dit il y a chez les particuliers plus que 1000 appareils, n'est-ce pas? Les 1000 appareils ont fonctionné sur la définition de 455 lignes, nous avons distribué en 441, mais on peut voir, on peut suivre la télé, pas dans la même qualité, mais c'est possible, n'est-ce pas, de profiter du programme. C'est-à-dire, n'est-ce pas, on peut dire, n'est-ce pas, ça, c'était pratiquement plus que nous avons eu à Berlin à cette époque, n'est-ce pas? Je suis peut-être trop humain, mais à l'autre côté, je ne faisais rien pour faire plaisir ni aux Allemands ni aux Français, n'est-ce pas? J'ai agi dans ma propre manière, c'était... Grâce à mon patron, c'était quand même M. Bofinger, qui a également des idées très francophiles, qui, et d'ailleurs, jamais une émission de propagande a passé nos antennes, jamais. Et, sur la radio, c'était le pain de tous les jours, n'est-ce pas, mais pas chez nous, à la télé. Et naturellement, je faisais travailler. Vous savez, j'ai eu besoin des gens, n'est-ce pas, pour effectuer mon travail, n'est-ce pas. Et c'est pour ça, une fois, parce que je ne connaissais pas encore la situation, c'était un jeune homme qui reçoit une invitation de se présenter. On pensait que c'était un service de maladie. Il se présente là-bas pour se trouver tout de suite dans un transport vers l'Est, n'est-ce pas? Et j'ai tout de suite compris, n'est-ce pas? Ça, c'est le fameux... ça s'appelle... c'est un général qui a le surnom Heldenklaus, c'est-à-dire qui chipe les héros, n'est-ce pas? Et c'était l'action Saukel pour embaucher des gens involontairement pour travailler en Allemagne. Mais ça, je ne pouvais pas permettre parce que j'ai eu besoin chacun. Et c'est pour ça, naturellement, j'ai donné des certificats. Ils sont indispensables pour la télévision. Et naturellement, je savais, peut-être, ce n'était pas toujours comme ça. C'était pour faire plaisir à quelqu'un. Mais nous avons eu un cœur assez large pour ça. Et naturellement, je savais que je faisais travailler des prisonniers évadés. Mais je ne savais pas officiellement, n'est-ce pas? Et je peux comprendre parce qu'il y a eu un jour une certaine difficulté. Et, j'ai eu un petit discours dans mon français, mais à l'époque, j'espère que je parlais mieux qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pouvais expliquer que je comprends que chaque Français est embêté d'avoir des occupants. Je le comprends 100%, n'est-ce pas? Je suis avec eux. Mais maintenant, il ne s'agit pas de ça, la guerre va se passer, et un jour, n'est-ce pas, tout est libre, et nous sommes là uniquement pour faire la télévision. Et si vous n'êtes pas assez fou pour suivre que la télévision, pour m'aider de développer cet instrument, allez volontairement, n'est-ce pas, mais autrement, restez fidèles, c'est une autre devise. Et à l'autre côté, vous savez, c'était une île, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Et nous, tous mes collaborateurs ont bien mangé et bien bu, n'est-ce pas? Il y a eu tout, et à cette époque, c'était important. Et assez souvent, n'est-ce pas, les employés, les fonctionnaires pouvaient rapporter quelque chose pour la maison, pour la famille. Et c'était beaucoup à cette époque. C'était déjà à la fin de la guerre, n'est-ce pas? C'était clair, n'est-ce pas? Ce sont les derniers jours. C'était le 17 août. J'étais dans mon appartement, prêt de partir. Mais c'est peut-être également encore intéressant, comme je suis parti, on raconte ça très bon. J'ai été chargé de ramener les caméras en toute façon, parce que c'était pratiquement prêté par les PTT. Et c'est bien, mais je n'ai pas eu un moyen de locomotion, n'est-ce pas? Et je me suis expliqué à mes amis français, où je savais, ils font certainement la résistance, mais vous savez, on se respectait, n'est-ce pas? Ils savaient, n'est-ce pas? Vous savez, c'était des véritables patriotes, ce n'était pas des terroristes, n'est-ce pas? C'était comme ça, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, c'était un tuyau pour se comprendre. Et j'ai expliqué ma situation, et tout à coup, j'ai un petit camion, un Citroën, 1 tonne, pas bien chaussé, mais quand même, 4 roues, sans roue de secours, sans immatriculation, n'est-ce pas, devant la porte, à un prix très, très raisonnable, parce que sur le marché, à l'époque, on payait pour des choses comme ça des sommes remarquables. Et on a chargé ça, n'est-ce pas? Et j'ai habité avenue Montaigne, et dans l'immeuble, vous savez, il y a le grand immeuble devant, et dans la cour, il y a encore l'autre où j'ai habité, et au milieu, il y a un jardin, et une rondelle, et j'étais prêt de partir le lendemain, n'est-ce pas? Avec ma petite Citroën que j'ai eue, et nous étions tous ensemble dans un état très triste là-bas. Et j'ai eu l'information de mes amis français, il faut partir le 18, je pense que c'était le 18, vous prenez d'abord Pont Alma, vous suivez les quais, etc., etc., pour gagner Vincennes. Mais il faut respecter les minutes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu sur les toits, n'est-ce pas, les tireurs, n'est-ce pas? Bon, et on a aucune difficulté, ça a bien marché. Mais pour revenir sur votre question, oui. Je reçois un coup de fil par la commandanture. C'était le service du général Kolditz. C'était un autre officier. Vous savez, on sent toujours si c'est un soldat de profession ou si c'est un être humain. c'était un soldat. Qui me demande, n'est-ce pas, est-ce que vous êtes le Sonderführer? Peut-être il faut expliquer ça, le mot Sonderführer. Vous savez, naturellement, ici, je ne pouvais pas être comme soldat normal. J'étais appelé sous-lieutenant, mais vous savez, le Sonderführer, ce n'est pas un véritable officier, c'est la moitié d'un officier, n'est-ce pas? Et pour blaguer, on appelait ça à l'époque des conducteurs spéciaux bien camouflés. Et il me demande, est-ce que vous êtes Sonderführer, ça? Oui. Quel est le numéro de votre permission d'entrée, hein, tour Eiffel? Je dis, excusez-moi, il faut que je cherche. Heureusement, j'ai trouvé, je répète. Ah bon, dans ce cas, c'est d'accord. Nous avons mis tous les cartouches pour faire exploser la tour, n'est-ce pas? Vous savez, je suis presque tombé par terre. Je dis, mais c'est pas possible, c'est la vacherie. Et il dit, écoutez, monsieur, c'est la guerre, c'est pas le moment pour discuter, n'est-ce pas? Vous avez l'ordre, n'est-ce pas? Et faites le rapport à votre commandant que vous avez fait. Bon. Mais vous savez, c'est quand même, n'est-ce pas, j'étais absolument par terre. Mais même si je voulais, comment on fait? Est-ce qu'on allume un briquet ou comment on fait exploser quelque chose? Aucune idée. Mais en toute façon, je me suis dit, parce que je connaissais assez bien la situation, quand tu dis, n'est-ce pas, tous les cartouches sont mis, il faut seulement faire sauter. Bon. Et j'ai été chargé de retéléphoner encore. Vous savez, non, j'ai mal raconté. Il m'a dit d'abord, n'est-ce pas, vous êtes ça et ça? Et je dis oui. Il dit, rappelez-moi, n'est-ce pas, en 5 minutes, n'est-ce pas, sur le numéro comme ça, et vous répétez tout cela, n'est-ce pas? Et j'ai, à l'occasion de mon coup de téléphone, j'ai reçu l'ordre, n'est-ce pas? Vous comprenez? Parce qu'autrement, tout le monde pouvait, n'est-ce pas, me donner l'ordre comme ça. Non, non. Bon, vous savez, je ne trouve pas que la tour Eiffel est très... pour moi, ce n'est pas une beauté. Mais malgré tout, c'est un signe de Paris, n'est-ce pas? Et de faire sauter l'émetteur qui se trouvait dans un édifice, n'est-ce pas? Peut-être quand on fait exploser ça, n'est-ce pas? Peut-être il va perdre un pied, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais sur 3 pieds, c'est peut-être debout, mais c'est terminé pour toujours entre la France et l'Allemagne. En toute façon, j'ai décidé de ne pas suivre l'ordre. Mais ça, c'est une autre chose, la politique. Je ne voulais pas parler de la politique, ça ne me regarde pas.